La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et tout de suite, c'est l'heure de la solution d'Elisabeth Assayag.
La réalité virtuelle pour lutter par exemple contre le harcèlement sexuel dans les entreprises, c'est ce que propose Roverto, Elisabeth.
Ça existe depuis un an pour lutter contre le harcèlement, le sexisme ou les discriminations, les risques psychosociaux comme on dit. On utilise grâce à Roverto un casque de réalité virtuelle. Ce casque, nous l'avons ici dans notre studio à Europe 1. Et on se met dans la peau d'eux. C'est un peu ça la solution de Roverto. Pas de PowerPoint pour expliquer ce que c'est les risques psychosociaux. Roverto vous propose de vivre une expérience pour nommer les choses et se mettre à la place de la victime. Ensuite, vous vous appuyez sur vos émotions pour mieux identifier les situations de sexisme ordinaire, par exemple. L'objectif, bien, c'est de changer de regard, se mettre pendant quelques minutes à la place de la victime. Pour mieux comprendre ce sexisme ordinaire, par exemple, vous incarnez Zoé, une collaboratrice qui va tomber enceinte et subir, pourquoi pas, des pressions au travail. Bonjour Guillaume Clerc.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Roverto. Comment vous est venue cette idée? On est en plein dans l'ère de MeToo. Comment ça vous est venu?
Alors, c'est lié? Moi je suis un homme, j'ai grandi entouré de femmes. J'ai trois sœurs, j'ai une maman qui est très présente. Aujourd'hui, j'ai une femme et j'ai une formation de journaliste. Donc, je pose beaucoup de questions. Et au moment de MeToo et de l'affaire Weinstein, je leur ai posé beaucoup de questions sur ce qu'elles vivaient au quotidien. Et j'ai été abasourdi.
Monde parallèle.
parce qu'elles me racontaient. Et la réflexion en fait que je me suis faite à ce moment-là, c'est purée, je me suis pas assez mis à leur place. J'ai pas assez compris. Et à ce moment-là, donc moi je viens de la réalisation, je suis réalisateur, je travaillais sur la vidéo 360 degrés, la réalité virtuelle. Je me suis dit tiens, là il y a il y a un moyen peut-être d'utiliser pour pouvoir se mettre à la place d'eux. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à travailler là-dessus.
Alors c'est quoi votre solution concrètement? Comment se mettons à la place d'eux?
Donc,
femme.
Concrètement, quand on met
le casque
de réalité virtuelle, vous vous glissez dans la peau. Donc, ce que vous avez expliqué tout à l'heure, voilà, au lieu de vous expliquer qu'est-ce que c'est le sexisme, par exemple, donc on fait ça sur le sexisme en entreprise, vous allez vivre ces expériences. Alors là, ça fonctionne.
Oui, ça ne fonctionne pas, mais je vais vous montrer ce que ça donne.
En entreprise, c'est une sorte de module.
Alors, c'est une expérience de 8 minutes où vous allez vous mettre à la place d'eux. C'est en vidéo 360 degrés. C'est réalisé avec des comédiens à partir d'histoires vraies qui ont été récoltées par des experts. Le scénario est relu avec des psychologues. Et ensuite, on travaille avec des gens du théâtre, du cinéma, des effets spéciaux, avec du son spatialisé à 360 degrés pour qu'il y ait une immersion réelle. Et vous allez avoir l'impression que les gens s'adressent à vous, que ça vous arrive à vous. Et donc, on s'appuie là-dessus. Ensuite, il y a un module interactif de 8 minutes qui va vous donner des clés, des conseils pratiques, vous poser des questions. Et donc, on s'appuie là-dessus pour pouvoir l'utiliser de manière autonome au sein des entreprises ou alors dans le cadre, comme une brique, dans le cadre d'une formation, de séances d'animation, de sensibilisation, pour que le formateur puisse s'appuyer là-dessus et faire passer ses messages.
Guillaume. Du coup, c'est ma question dans votre modèle business. Du coup, est-ce que vous vendez aussi des formations de conseils? Parce que j'imagine que quand on regarde ce film derrière, il faut savoir, est-ce que c'est des comportements qu'on a pu voir dans la boîte et du coup, comment il faut arriver à libérer la parole sur le sujet? Est-ce que vous posez le film et puis derrière, c'est plus votre métier que la suite?
C'est un suivi.
Voilà, comment vous... Alors, vous insérez dans les boîtes, en fait.
Pour nos clients, nous, on essaye d'apporter tout clé en main, de dire, si vous avez besoin de formateurs, d'animateurs, nous, on peut faire l'animation technique. Pour les formateurs, pour les experts, nous, on n'est pas experts de ces sujets-là. Donc, on crée des partenariats avec des cabinets de conseil, avec des centres de formation, avec des experts, des psychologues, qui, eux, peuvent être sur place, sont experts de ces sujets, sont formateurs et utilisent nos contenus. Mais nous, notre business model, en fait, c'est de produire des contenus thématique et de vendre les licences de ces contenus et que ça soit utilisé le plus facilement possible dans les entreprises.
Qui sont vos clients après un an d'existence? Qui s'adresse à vous?
Aujourd'hui, ce sont des entreprises, ce sont des syndicats, ce sont des cabinets de conseil et de formation qui peuvent utiliser directement. Eux, ils font déjà aujourd'hui des formations, donc d'utiliser ces contenus et des associations aussi.
C'est une façon de faire de la prévention aussi?
Alors, c'est tout à fait, nous, on le vend comme un module de prévention et de sensibilisation. Parce que l'idée, c'est comme maintenant que vous avez vécu ces expériences, vous serez mieux à même de pouvoir les identifier.
Et
voilà,
les
prochaines fois qui vont arriver, vous pourrez les identifier et vous aurez des conseils pratiques sur comment désamorcer ce genre de situation.
Guillaume.
Et du coup, cette thématique qui vous touchait personnellement, est-ce que derrière, vous allez imaginer créer du contenu sur d'autres formes de thématiques sur lesquelles on doit sensibiliser les gens? Est-ce que du coup, l'entreprise sera aussi le bon vecteur pour le déployer? Comment vous voyez les choses pour la suite?
Alors, bien sûr, nous, la feuille de route, c'est le bien-être en entreprise et le leadership. Alors là-dessus, sur tout ce qu'on appelle les risques psychosociaux, on veut aller sur le handicap, sur les discriminations, sur la diversité, sur le harcèlement moral. Il y a énormément de choses à faire là-dessus. Et plus largement, sur le management et comment est-ce qu'on travaille ensemble. Là, on a une solution où on peut se mettre à la place de l'autre. On peut comprendre des choses et on peut s'appuyer sur cet outil pour travailler sur des choses très spécifiques comme donner du feedback, comment est-ce qu'on engage les gens avec qui on est, et donc de s'appuyer là-dessus pour des formations en management, en leadership avec de la bienveillance.
Ça s'appelle Roverto, c'est la solution aujourd'hui. Merci Guillaume d'être venu nous en parler sur
Europe 1. Merci de m'accueillir.
Il est midi 58.
Europe 1.
On reste ensemble et on ouvre le débat sur le biomimétisme. À partir de 13h, on vous attend 3921 et Twitter.
Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge, nous sommes ensemble jusqu'à 14h et aujourd'hui, vaste débat que nous ouvrons ensemble, le dossier du biomimétisme. De tout temps, c'est vrai que l'homme a regardé autour de lui pour trouver des sources d'inspiration et aujourd'hui, c'est une des machines les plus perfectionnées qui existent, qui l'inspire pour innover, à savoir l'homme lui-même. C'est le cas chez Prophétie où l'idée, eh bien, c'est tout simplement de donner aux robots des yeux aussi efficaces que les nôtres. Bonjour Luca Verret.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes vous-même ingénieur. Alors racontez-moi comment vous est venue l'idée de travailler sur ce projet.
Et donc il y a 5 ans, j'ai rencontré de chercheurs de l'Institut de la Vision, ici à Paris, qui travaillaient depuis plusieurs années sur le développement d'un modèle artificiel de la rétine de l'œil humain. Et donc je trouvais ce projet très passionnant et nous avons décidé de démarrer ensemble, il y a 5 ans, l'histoire Prophétie.
Au départ, c'était pour implanter des rétines artificielles pour permettre de recouvrer la vue?
Exactement. Donc, au début, la première implémentation de la technologie a été utilisée par une autre société basée à Paris qui s'appelle Pixium Vision, qui développe des systèmes de restauration de la vue pour des personnes qui ont des dégénérescences de la rétine et qui a utilisé donc notre rétine artificielle pour permettre de développer ce dispositif médical qui était implanté chez plusieurs patients avec pas mal de succès.
En fait, on ne sait pas encore vraiment, hein, si j'ai bien compris, comment l'œil et le cerveau communiquent, fonctionnent ensemble. Il reste pas mal de choses à découvrir. Comment est-ce que vous avez fait pour prendre la technologie de l'œil et finalement la reproduire?
Oui, effectivement, il y a encore des éléments qui sont très complexes, un peu méconnus, etc. Mais le principe même de développer un système artificielle de la rétine existe depuis en fait une trentaine d'années. Les premiers travaux de recherche ont démarré aux États-Unis. Et depuis en fait 10 ans, la technologie a atteint un certain niveau de maturité qui a persuadé donc, ce groupe de recherche et moi-même pour démarrer en fait cette société. Et donc le principe, c'est le principe d'un capteur d'image qui n'acquiert plus d'image.
Mais un capteur qui imite l'œil.
Qui imite l'œil. Donc en fait, l'œil, comment ça fonctionne? Quand je vous observe en ce moment, en fait, mes yeux n'acquièrent pas l'image, par exemple, du sol, du plafond, de vos voisins, etc. Mais n'acquièrent que l'information de ce qui change. Donc vos yeux, par exemple, votre bouche, vos mouvements de tête, etc. Donc les yeux se focalisent seulement sur l'information des changements, sur l'information différentielle, ce qui permet de réduire la quantité de données de manière extraordinaire.
Comme un appareil photo, mais en mieux.
Exactement, parce que l'appareil photo, normalement, génère une vidéo par séquence d'images. Donc l'image, c'est une représentation de la scène qui est statique. Tandis qu'en fait, l'œil se focalise sur toute l'information qui est dynamique, ce qui permet après à nous, à l'homme, de bien comprendre notre environnement et de bien réagir et de se protéger dans cet environnement.
À quoi ça va servir de mettre l'équivalent de notre œil dans un robot?
Parce que donc notre...
ça tient, c'est tout petit, hein. Regardez,
c'est tout
petit. Je l'ai à la main, c'est une toute petite puce qui va être implantée sur un robot, c'est ça?
Oui, exactement. Donc, pour vous donner quelques chiffres, une caméra classique, Aujourd'hui, génère une dizaine, une vingtaine d'images par seconde. Notre capteur est capable de générer 10 000 images par seconde en temps réel, ce qui permet après à des dispositifs comme des robots, des drones, des voitures, d'avoir beaucoup plus d'informations et de réagir beaucoup plus vite, par exemple, en présence d'un obstacle. Ou bien,
dans des voitures, par exemple.
Voilà, pour les véhicules autonomes, par exemple. Si on veut détecter un piéton qui traverse la rue aujourd'hui, une caméra classique, la plupart du temps, en fait, elle est aveugle. Elle ne voit rien, elle voit après un petit quelque chose, après elle ne voit rien. Donc, tout le temps qu'on passe entre une image et l'autre, on a besoin de faire du traitement, etc. Notre capteur a une capacité à voir de manière continue et à réagir de manière beaucoup plus vite.
Le coach, Guillaume Gibault.
Le coach est assez impressionné déjà par le côté recherche, bien sûr, mais comment est-ce qu'on passe d'une idée qui est, de ce que je comprends, plutôt destinée à la médecine dans un premier temps, comment est-ce qu'on en fait un business en fait? À quel moment est-ce que c'est un fonds d'investissement qui vient voir en disant bah, votre truc ça peut être super, on peut le vendre à plein de gens? Est-ce que c'est un chercheur qui est un peu businessman aussi qui se dit bah tiens, en fait, sur un accident on peut peut-être le vendre à des clients, parce qu'après c'est un savoir-faire d'imaginer les clients qui peuvent avoir ces besoins-là, et est-ce qu'il y a un sujet de financement évidemment là-dedans? Donc comment est-ce que se fait cette boucle-là en fait?
Absolument. Donc, nous avons démarré avec cette application dans le domaine médical, mais tout de suite, en fait, on a capté qu'il y avait beaucoup d'opportunités dans les mondes de la vision artificielle, dans des applications comme celle de l'automobile, des objets connectés, de la surveillance. Donc, nous sommes allés chercher des capitaux de capital risque. Donc, nous avons levé jusqu'à présent 35 millions d'euros auprès d'investisseurs comme Bosch, Intel, les groupes Renault-Nissan, et d'autres investisseurs financiers. Donc, nous avons monté une équipe aujourd'hui d'une centaine de personnes qui développent et commercialisent la technologie.
Ça veut dire que c'est possible de développer à l'infini cette technologie-là?
Mais il y a
Elle
encore...
est applicable à beaucoup de domaines.
Absolument. Il y a des marges d'amélioration qui sont extraordinaires, avec des champs d'application possibles qui sont infinis. Je peux vous donner quelques exemples un peu particuliers. Aujourd'hui, on travaille avec l'Université de Sydney en Australie pour détecter l'infiniment grand, c'est-à-dire on va détecter des débris dans l'espace qui se déplacent très rapidement, ou bien ici à Paris avec l'Institut de microélectronique de l'UPMC, on travaille avec une application où on va détecter des cellules et on peut mesurer les vibrations des cellules jusqu'à quelques milliers de hertz.
Elisabeth, s'inspirer de la nature pour innover, préserver l'environnement, il y en a de plus en plus finalement des potentiels autour de nous.
Oui, il y en a de plus en plus en France, et la Nouvelle-Aquitaine, eh bien, c'est la région la plus en pointe en biomimétisme. Elle a même publié en avril 2018 un rapport sur le sujet. Au total, il y a 51 acteurs engagés dans le secteur, dans des secteurs notamment dans la chimie, dans l'agriculture ou dans le bâtiment. Et en 10 ans, le développement de la biomimétique permettrait une augmentation nette, d'après ce rapport, du PIB de 575 à 3177 milliards d'euros selon les secteurs du développement, avec la création de 5626 à plus de 30 000 emplois. Donc il y a vraiment quelque chose autour du biomimétisme.
Je crois que Guillaume avait une question.
Oui, j'avais une question. En fait, on entend à votre accent italien, vous me parlez de Sydney, vous me parlez de Paris. Derrière, il y a des moyens importants à développer. Est-ce qu'il y a un consortium de chercheurs et d'entrepreneurs qui partagent tout en open book? Il n'y a pas de problème parce qu'il y a quand même des enjeux financiers importants. Comment est-ce qu'on arrive à concilier ça, le côté on va tous chercher ensemble pour aller dans le même sens et en même temps, on n'est pas forcément tous dans la même équipe?
Aujourd'hui, donc effectivement, sur les technologies comme la nôtre, qui sont des technologies de rupture, l'enjeu principal, c'est d'évangéliser, de rendre l'écosystème le plus large possible, sensible à nos technologies. Donc aujourd'hui, de notre part, en fait, on partage beaucoup d'informations, on partage beaucoup d'inventions à travers des papiers scientifiques, des articles scientifiques. Donc on essaie de créer un écosystème autour de nouveaux inventeurs, nouveaux chercheurs, partenaires, etc.
Merci beaucoup, Luca Verret. On va vous libérer parce que je crois que vous avez des obligations. C'est en ce moment Biomim Expo, hein. C'est la raison pour laquelle nous parlons biomimétisme aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h19.
Europe 1.
Et si on inventait de nouveaux adhésifs pour refermer les plaies qui s'inspirent, tenez-vous bien, de la bave d'escargot? C'est un peu ce que fait Titium. À tout de suite sur Europe 1.
La nature est une source d'inspiration. On en parle dans La France bouge. Le biomimétisme est le dossier du jour. Dites-nous ce que vous en pensez sur Twitter, @Europe 1, ou appelez-nous si vous avez des questions ou souhaitez témoigner au 3921, Raphaël.
En regardant la nature, on en apprend un petit peu plus chaque jour. C'est aussi ce constat, je suppose, qu'a fait Christophe Bancel. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président fondateur de Tissium, créé en 2013. Et alors, votre entreprise a développé une nouvelle génération de matériaux qui vont être utilisés notamment dans la reconstruction des tissus lors des interventions chirurgicales. Racontez-moi d'abord comment vous avez découvert et quand que l'escargot, par exemple, et sa bave ou le ver marin peuvent être une source d'inspiration.
Alors, en pratique, ce n'est pas moi qui ai découvert ça. J'ai rencontré des chercheurs du MIT, donc c'est une université prestigieuse aux États-Unis, qui avaient eu des discussions avec un professeur de chirurgie cardiaque. Et une des questions qui était comment pourrait-on fixer un patch à l'intérieur d'un cœur qui battait, sans rentrer dans le cœur, en rentrant dans le cœur, sans avoir à l'ouvrir. Et un des enjeux qui se posait, c'était comment peut-on coller un objet à l'intérieur du corps, en maîtrisant le moment auquel cette fixation a lieu. Et en fait, les chercheurs du MIT, dirigés par Jeff Karp, qui est pour moi une personne proéminente dans le domaine du biomimétisme, il a inventé 6 ou 7 technologies en s'inspirant du vivant, donc il a vraiment une approche très systématique, a travaillé avec, à l'époque, une de ses élèves, qui s'appelle Maria Pereira, qui maintenant nous a rejoint et qui est la directrice de l'innovation chez nous. Et ils avaient identifié certains critères qui leur paraissait un peu assez important. Et pour pouvoir définir ces critères, ils ont regardé la nature en se disant à quel moment ou de quelle manière la nature arrive à déjouer ses complexités. Et des choses qu'ils avaient identifiées, c'était un peu la façon dont les escargots se déplaçaient quand il pleut, donc quand c'est mouillé. Et ils avaient identifié que la composante visqueuse des sécrétions était très importante pour pas qu'elle soit lavée, si je puis dire, par l'eau. Et un autre phénomène était un ver marin californien qui construit ses habitats en mélangeant sa salive elle-même visqueuse, pour ne pas être diluée dans la mer, avec des petits cailloux. Et lorsque la salive et ces cailloux sortent de sa bouche, il y a un changement d'acidité.
Ça se solidifie, en quelque sorte.
Ça se met à se solidifier. Donc il y avait une espèce de stimulus qui déclenchait et qui donnait donc le contrôle pour pas que ça solidifie dans la bouche de ce ver.
Donc l'idée, c'était de recréer à quelque chose près cette bave d'escargot.
Si on peut dire, oui.
Et vous en avez fait une matière qui ressemble, c'est-à-dire qui passe d'un état à un autre.
Exactement.
Et qui ne soit pas toxique, évidemment.
Exactement. Donc notre approche du biomimétisme, leur approche du biomimétisme a été de dire quels sont les grands mécanismes importants. Et l'idée n'était pas de purifier une matière de la nature. Et donc, en travaillant comme ça, ils ont développé une nouvelle matière première qui est totalement synthétique, qui est biocompatible, ce qui veut dire qu'on peut la mettre à l'intérieur du corps sans qu'elle soit toxique. Elle est biodégradable, parce que notre approche de la reconstruction des tissus est la suivante. Une fois que ça a cicatrisé comme on le souhaite, à l'intérieur du corps, on a en théorie plus besoin du matériau. Donc, c'est très bien qu'il s'en aille.
On peut enlever le sparadrap, en quelque sorte.
En fait, il se dégrade. Il disparaît lui-même, il se dissout à l'intérieur du corps. Et on voulait une technologie qui puisse être activable à la demande. C'est-à-dire que le médecin ait le contrôle de ça colle, ça colle pas, ça fixe pas, c'est liquide, ça devient solide. Il fallait que le matériau soit aussi visqueux pour pas être lavé, comme j'expliquais, en présence de sang. Et ils ont développé une nouvelle famille de polymères qui, techniquement, a un acronyme un peu barbare qui s'appelle du PGSA, que nous, on appelle les polymères tissium, qui sont notre propriété. Donc, on a une licence exclusive mondiale sur toutes les applications en santé. Et depuis, on a même développé un grand portefeuille de brevets en interne. Donc, on a une très forte position propriété intellectuelle.
Donc, vous allez pouvoir intervenir en chirurgie cardiovasculaire aujourd'hui avec ce mastic, on va dire. Hein, c'est une
Tout
sorte de mastic.
Tout à fait. Alors, on a développé une première application où on arrive en renfort des lignes de suture. Donc, quand vous avez le chirurgien qui coupe des vaisseaux, mais que la suture est amenée à ne pas être assez hermétique, on peut appliquer le polymère à l'extérieur. Et aujourd'hui, on est en train de développer, donc ça, c'était validé dans des applications cliniques. Et aujourd'hui, on est en train de valider des applications beaucoup plus larges, comme le domaine de la réparation du nerf périphérique. Donc, quand vous avez un traumatisme, c'est-à-dire une section du nerf périphérique, c'est principalement dans les bras ou dans les membres, ou jambes, on est capable de reconnecter le nerf en le collant dans un conduit et le nerf repousse et cicatrise, sans fil.
Impressionnant, non, Guillaume ?
Impressionnant. Et moi, je fais une question un peu perso. Je comprends que vous êtes l'entrepreneur qui a rejoint une équipe de scientifiques.
Ouais.
Vous allez peut-être répondre à la question après. Mais comment est-ce qu'on arrive à suivre quelqu'un ou une équipe qui se dit « je vais prendre des sécrétions d'escargot ou d'un ver marin et on va réussir à en faire un produit » et j'imagine tous les efforts de R&D, de financement derrière,
de
suivre l'intuition de quelqu'un qui vous dit « si, si, ce truc-là va marcher », ce qui paraît quand même assez dingo, quoi.
Alors, c'est un travail, comme disait Lucas, c'est une rencontre de personnes, déjà, je pense que c'est très souvent le cas. En pratique, lorsqu'on a commencé à réfléchir à la création d'entreprise, le MIT avait validé le concept. Ils avaient déjà développé la matière, mais au niveau académique, c'est-à-dire ils fabriquaient quelques grammes dans un laboratoire.
Ils avaient un produit qui fonctionnait, quoi, déjà.
Qui fonctionnait dans un laboratoire, sur un modèle, d'accord ? Mais ils avaient déjà fait tout le travail de construction, on va dire, théorique, pour passer de cette idée d'innovation, comment pourrait-on résoudre ce problème ? Ils avaient démontré qu'ils étaient capables de le résoudre. Après, il y a tout le chemin de l'industrialisation, et c'est comment vous passez d'une idée académique, il y en a beaucoup, une publication scientifique, à un vrai produit cliniquement validé, fabriqué dans une usine qui fonctionne. Et ça, ça prend un certain temps et c'est notre enjeu.
Je voulais vous donner un autre exemple avec les vers marins.
Oui, certains y sont parvenus aussi à pouvoir industrialiser ce processus avec, par exemple, Emarina que l'on connaît bien ici.
Trophée de l'avenir européen.
Trophée de l'avenir, ça a été créé en 2007 par le docteur Frank Zahl. Alors lui, il s'est rendu compte que les vers marins sont capables de ne pas respirer pendant plusieurs heures quand ils sont enfouis dans le sable. Ainsi, il a étudié pendant une quinzaine d'années, la composition et la structure de leur hémoglobine, du sang qu'il y a à l'intérieur. Et ils s'est aperçu que l'hémoglobine est universelle, elle est de plus petite taille et ça permet de transporter l'oxygène de manière unique. Et c'est comme ça qu'avec cet additif, ça permet de mieux conserver les organes destinés à être greffés et les conserver plusieurs jours, alors qu'aujourd'hui, c'est quelques heures à peine.
On reste ensemble et on continue à parler biomimétisme aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h29.
Europe 1.
Et si la production électrique s'inspirait demain de la nage des poissons, c'est ce que fait Il Énergie. A tout de suite.
Le dossier du jour dont la France bouge est le biomimétisme, un processus d'innovation entre la biologie et la technologie, ou comment la science s'inspire de la nature. Réagissez à ce sujet sur Twitter, écrivez-nous @Europe 1. Vous pouvez également nous appeler au 39 21, c'est 50 centimes la minute. Raphaël,
je suis certaine que vous avez déjà regardé les poissons nager, Céline.
Oui,
c'est beau, hein.
J'en ai un à la maison, j'en ai même deux et je les regarde pendant des heures. Non, mais c'est vrai.
Ça va vite et vous allez voir que les chercheurs y ont vu un autre intérêt. Bonjour Franck Sylvain.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG d'Il Énergie. Alors Il, c'est E-E-L pour anguille.
Anguille en anglais, oui,
en
absolument.
Anglais. Vous créez des hydroliennes qui s'inspirent en fait du mouvement d'ondulation des anguilles. Racontez-moi comment vous avez observé ce phénomène et comment vous est venue l'idée.
L'idée, elle est toute simple. C'est-à-dire que quand vous regardez un poisson, il avance dans un liquide 1000 fois plus dense que l'air. Et vous avez des poissons comme l'espadon voilier ou le merlin bleu qui dépassent les 110 km/h. Donc, ils vont plus vite qu'un jaguar dans un milieu 1000 fois plus dense. Donc, ça paraît évident que dans l'eau, l'ondulation, c'est la meilleure façon de se déplacer. D'ailleurs, l'hélice n'a pas créé la nature. N'a pas créé l'hélice sous l'eau. Elle existe dans l'air, et vous avez des graines qui tournent pour aller se planter plus loin, mais dans l'eau, ça n'existe pas, c'est l'ondulation. Et donc, nous, à contrario, on s'est dit, si on a du courant, plutôt que de mettre une hélice, si on met une structure ondulante, on devrait récupérer beaucoup plus d'énergie qu'avec une hélice.
Donc, vous avez cherché à reproduire le mouvement. Comment ? Avec quel matériau ? Une membrane de fibres de verre, c'est ça ?
Alors maintenant, oui, on a essayé plusieurs matériaux. Maintenant, on utilise une résine recyclable. Et ça, on fait des plaques en fibres de verre. Et ces plaques, on les contraint, c'est-à-dire on met un câble de chaque bout, de manière à ce qu'il y ait une surface qui soit face à l'eau. Et à ce moment-là, la membrane va se mettre ondulée. Et de l'ondulation, on récupère de l'énergie. Voilà, tout simplement. Et donc, il faut bien comprendre que toute cette membrane est un capteur. Donc, toute la surface est un capteur. Par rapport à la surface d'une hélice, il n'y a pas besoin d'être un grand savant pour comprendre
qu'il y a
beaucoup plus de surface pour capter l'énergie.
Vous avez fait un premier prototype qui est en place, je crois, depuis quelques mois.
Voilà, oui, on n'a pas trop communiqué dessus parce que
c'est
voilà,
l'occasion.
C'est... Mais oui, ça fait 2 mois qu'on a une machine qui tourne dans un canal des Hauts-de-France et voilà, ça nous permet.
Alors qu'est-ce que ça génère comme électricité, comme
alors,
énergie
pour le moment, ça génère pas beaucoup parce qu'on va dire qu'elle est en rodage, c'est-à-dire on va pas la mettre à fond dès le début et. On regarde tous les problèmes qu'on a et c'est vrai qu'une machine qui, dans un labo, tourne 8 heures d'affilée, quand elle tourne 100 heures d'affilée, les fatigues ne sont pas les mêmes. Il y a des câbles qui cassent, il y a des manilles qui cassent. Enfin. Donc, on est encore au point où toutes les semaines, on remplace des pièces et on les met plus grosses et plus ça y va, plus la machine tourne sans avoir de, ou ondule plutôt, sans avoir de problème.
Mais l'objectif, c'est bien de produire de l'électricité moins chère de manière
produit,
plus propre.
Elle en produit. Pour le moment, cette petite machine produit à peu près 8 kWh par jour. C'est pas énorme. Enfin,
votre idée, c'est d'en mettre partout, notamment dans les fleuves, dans les rivières.
Non, mais cette machine à terme devrait faire 30 à 40 kWh par jour. Et donc là, déjà, vous pouvez donner l'électricité à une dizaine de personnes ou à 3-4 foyers. Et ensuite, donc c'est une petite machine, c'est un petit prototype. Donc déjà sur ce petit prototype, on arrive, si vous avez 2 mètres secondes de vitesse de courant, parce qu'il faut bien comprendre aussi que la machine ne peut restituer que la puissance qu'elle reçoit.
Bien sûr.
Donc il faut quand même du courant d'eau pour la faire marcher. Et qu'à 2 mètres secondes, on est aux alentours de 150 euros du mégawatt, c'est-à-dire 15 centimes d'euros le kilowatt. C'est à peu près ce que vous devez payer sur votre facture d'EDF actuellement.
Sauf que là, c'est plus propre.
Ah ben là, il y a zéro émission de CO2, il y a pas d'émission de déchets, ça n'abîme pas la faune ou la flore. Et puis surtout, dans ces énergies renouvelables, c'est la seule qui est prédictible. C'est-à-dire qu'on sait quand et combien d'énergie propre on va produire avec les courants de marée, tant que la Lune tourne autour de la Terre. Et dans un fleuve, c'est tant qu'il y a de l'eau dans le fleuve et qu'il y a du débit, on va produire H24.
Guillaume Gibeau, notre coach.
Je crois que c'est... Je ne connais pas particulièrement bien le métier, mais je crois que c'est un vrai sujet d'arriver à fabriquer de l'énergie renouvelable. Et je crois savoir que beaucoup de boîtes en vendent en achetant plutôt des compensations CO2 qu'en vraiment la produisant elles-mêmes. Est-ce que du coup, toutes les grosses boîtes du secteur sont sur votre dos à vous dire quand est-ce que ça sort, on vous met de l'argent, on vous accompagne?
Malheureusement, non.
Okay.
C'est la vraie vie. Heureusement, il y a eu un vrai entrepreneur qui est François Frisquet, des Chaudières Frisquet, qui a complété l'augmentation de capital. On avait fait une augmentation de 3 millions il y a 3 ans maintenant. On avait réussi à lever 1 million et lui a mis les 2 millions manquants. Donc, ça nous a permis de continuer vraiment l'aventure et de nous donner les moyens de nous développer. Mais il fallait un entrepreneur qui sache ce que c'est qu'entreprendre, prendre des risques. Parce que les fonds de capital risque, à l'heure d'aujourd'hui, ils ne prennent pas du risque sur ce genre de...
On va voir, peut-être qu'ils nous écoutent et qu'ils vont vous
oui,
entendre.
Oui, mais maintenant qu'il y a un proto qui marche, oui, peut-être.
Elisabeth, je crois qu'il y a un Français, un chimiste, qui veut transformer le CO2 en carburant.
Oui, ce chimiste, c'est Marc Fontecave, qui, lui, s'inspire aussi directement des plantes. En reproduisant la photosynthèse d'une plante, Marc Fontecave arrive à transformer le dioxyde de carbone en hydrocarbure, en pétrole. Le dioxyde de carbone, il est notamment responsable du réchauffement climatique. Il transforme déjà à petite échelle le dioxyde de carbone en éthylène. Et là aussi, donc, ce chimiste a réussi à reproduire ce processus de photosynthèse, ce qui lui permet d'absorber le dioxyde de carbone pour le transformer. Ce mécanisme pourrait à grande échelle devenir, pourquoi pas, un moyen pratique pour produire du carburant.
On reste ensemble et on continue le débat sur le biomimétisme aujourd'hui. Il est 13h37.
Europe 1.
Et on vous attend, 3921. Twitter aussi, allez-y, c'est maintenant qu'il faut nous appeler pour venir nous dire ce que vous pensez de la nature et de ce qu'elle nous inspire. A tout de suite.
C'est le biomimétisme qui est à l'honneur dans La France bouge, Raphaël Duchemin.
Oui, nous sommes avec Christophe Bancel, fondateur et PDG de Tissium, des systèmes innovants et biodégradables destinés à refermer les plaies chirurgicales. Nous sommes aussi avec Franck Sylvain, qui est PDG de Heal Energy. Heal, ça s'écrit E-E-L pour anguille, une hydrolienne fondée sur une membrane ondulante inspirée du mouvement des anguilles justement dans le courant et qui permet de créer de l'électricité. Toujours avec nous, Elisabeth Assaïg, bien sûr, et notre coach aujourd'hui, Guillaume Gibeau, fondateur du Slip français. Je crois qu'on a quelques questions sur Twitter, Céline.
Oui. On en a une pour Franck Sylvain, précisément, puisque c'est Jean qui dit quel avantage dans le rendement de cette membrane par rapport aux hydroliennes traditionnelles.
Ah, bonne question.
Eh bien, les hydroliennes traditionnelles, elles ne marchent pas vraiment, puisqu'on n'en a jamais vu encore installer, si ce n'est qu'au nord de l'Écosse, à grand renfort de dizaines de millions. La nôtre produit de l'électricité dans des courants faibles. Ça a été, on a été la première hydrolienne à avoir un certificat du Bureau Veritas sur notre courbe de puissance. C'était il y a 18 mois déjà, et personne d'autre a fait ce travail-là. Et donc, chacun peut annoncer ses courbes de puissance et dire ce qu'il veut. Nous, on a une vraie courbe de puissance qui est certifiée et attendons ce que les autres vont dire. Et là, on pourra comparer. Mais de notre partenaire Ifremer, qui voit beaucoup de systèmes, on est 20 à 30% plus efficace qu'une hélice.
Guillaume ?
On est très fiers, je crois, de notre centrale marémotrice de la Rance. Est-ce que c'est une inspiration ? Est-ce que c'est dépassé ?
Avec notre système, oui, ça serait dépassé. Parce que plutôt que de fermer et condamner le passage qui change tout l'écosystème derrière, on pourrait mettre des centaines d'anguilles dans cet endroit et produire de l'électricité. Alors ensuite, est-ce qu'on pourrait en produire autant ? Je ne sais pas, mais on pourrait en produire pas mal quand même.
Autre question sur Twitter toujours, Céline ?
Oui, on a Marc qui dit, en vous écoutant présenter vos innovations, on a envie de venir travailler avec vous. Quels sont les profils des personnes que vous engagez ?
Ah, Christophe ?
Merci Marc, c'est gentil.
Ça veut dire que ça l'inspire en tout cas.
Tout à fait. On apprécie...
Est-ce qu'il faut des qualifications particulières ?
Il faut des qualifications techniques. Dans notre, je parle de notre société, il faut... pas mal de qualifications techniques. On est quand même une société de R&D. Recherche et développement, pardon. Donc, principalement, nos équipes sont composées d'ingénieurs, de pharmaciens, avec le versant industriel, et aussi de docteurs en sciences, soit en chimie, soit dans le domaine de la biologie, parce qu'on a une interface avec le tissu qu'on a besoin de comprendre. Et plus récemment, on a regardé d'autres profils qui restent assez techniques aussi. Nous avons ouvert un site de production à Lille qui fonctionne. Et dans ce site-là, on a plutôt des acteurs de l'industrie pharmaceutique, donc avec un spectre assez large, mais on reste quand même dans des métiers assez techniques pour l'instant.
Moi, je voudrais savoir, vos solutions aujourd'hui, vos innovations, elles fonctionnent réellement, elles sont mises en place. Vous avez commencé déjà à les utiliser, Christophe Ancel.
Alors, nous avons développé, ce qu'on essaie de construire avec Tissium, c'est une plateforme de matériaux. Et en fait, le cœur de notre technologie sont une matière première qu'on décline dans différentes applications. Donc, on a choisi une première application pour montrer que ça fonctionnait, que c'était sûr pour le patient. On a développé des études cliniques, on a eu des agréments, des autorisations européennes d'un organisme qui est un organisme notifié pour la commercialisation. Et on a démarré les démarches aux États-Unis. Donc, on a un premier programme qui fonctionne et qui est validé. Notre stratégie aujourd'hui, c'est de décliner cette technologie sur des applications chirurgicales assez différentes. Comme je vous disais, on a une deuxième application dans le domaine du nerf périphérique, une autre dans le domaine de la chirurgie digestive. Et notre stratégie aujourd'hui, c'est de décliner ces choses-là dans des domaines assez différents, où on pense que la technologie a un avantage pour le patient.
Même question pour vous, hein, Franck Sylvain. C'est en cours, on est à l'état de prototype pour l'instant. Vous espérez commercialiser quand ?
Bah, d'ici, si tout se passe bien maintenant, ça va être assez proche. C'est d'ici 6 à 9 mois, les premières petites machines pourraient être vendues pour des lieux isolés, pour faire de l'électricité, plutôt que de brûler de l'essence ou du diesel, installer ces machines-là. Enfin, la seule contrainte, c'est qu'il faut avoir un cours d'eau à côté avec un peu de puissance.
Elisabeth, je voudrais qu'on fasse un petit coup de chapeau aussi à Glowy. On n'en a pas parlé, mais elle fait aussi partie des startups à suivre.
Exactement. Cette entreprise travaille sur le système de la bioluminescence. La bioluminescence, c'est la production et l'émission de lumière par certains organismes vivants comme les lucioles, les vers luisants et plus de 80% des organismes marins. Donc cette solution, la lumière biologique, pourrait être là aussi une alternative à la lumière électrique.
Merci d'être venu nous parler biomimétisme aujourd'hui sur Europe 1. C'était passionnant.
Merci, merci pour votre accueil.
Il est 13h46. Europe 1.
On va rester ensemble et l'entreprise qui arrive a inventé, figurez-vous, le fameux fauteuil Sénéquier à Saint-Tropez, Azur et l'entreprise qui va bien. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est le moment, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, eh bien, c'est Azur. Bonjour Raphaël Voisine.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Merci d'être avec nous. Vous dirigez cette maison qui est née en fait dans les années 50. Et je crois que vous avez racheté il y a 8 ans cette entreprise qui est au départ une entreprise familiale que tout le monde connaît grâce à la création du fameux fauteuil Sénéquier à Saint-Tropez. Racontez-moi comment est né ce fauteuil et quelle est son histoire. On ne la connaît pas?
Non. Très peu, parce que c'est une petite entreprise. Moi, je l'ai reprise il y a 3 ans, en 2016. Et elle date, l'histoire du fauteuil, il est avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est le grand-père qui fabriquait des fauteuils pour poupées. Et un jour, un de ses clients lui demande s'il saurait les faire en grand. Et il lui a répondu favorablement. Ça, c'est tout le début de l'histoire. Et après-guerre, le père a rencontré les gens du Sénéquier. Et à ce moment-là, proposé de la faire tout en rouge. Et c'est le début vraiment de l'histoire commerciale de l'entreprise qui était sous un autre nom. Et moi, je l'ai repris aux deux enfants qui avaient créé l'entreprise en 89. Et ce fauteuil est une partie de l'entreprise parce qu'autrement, on fabrique aussi du mobilier pour tout ce qui est professionnel.
C'est l'emblème.
C'est l'icône. C'est, oui. Et c'est un fauteuil un peu à part parce qu'il est unique dans sa fabrication. Déjà, tout est fabriqué chez nous. C'est 18 pièces.
Il est avec nous, ce fauteuil, l'équivalent.
C'est le petit dernier qui est le...
Oui, parce qu'il évolue cette année, le fauteuil Sénéquier. Ça, c'est une nouveauté en septembre 2019, c'est-à-dire maintenant.
Exactement, on lance les 3 nouveaux modèles. Et on quitte en fait le bois exotique pour revenir sur des bois européens avec 2 bois. Le premier qui est le robinier et le second qui est le frêne. Historiquement, il était fait en frêne.
Alors, ce fauteuil, il a lancé l'entreprise au départ. Et puis, petit à petit, cette famille, elle s'est sédentarisée dans une vallée. Vous êtes toujours dans cette même vallée.
On est toujours dans cette magnifique vallée qui est la Chartreuse, entre Chambéry et Grenoble.
Parce qu'au départ, c'était des gens du voyage.
Exactement.
Et aujourd'hui, vous êtes devenue finalement une des emblèmes de la vallée?
Je ne sais pas, parce qu'il y a aussi des très belles entreprises. On connaît les liqueurs de la Chartreuse. On connaît aussi... entreprise qui est dans le trail, qui a été rachetée par Rossignol il y a peu de temps. Mais on est une entreprise emblématique, oui, qui compte par rapport à l'image qu'elle véhicule. Oui.
Oui, puis vous vous êtes imposé aussi dans les chalets, du côté de Megève,
notamment. En fait, c'est l'histoire aussi de l'entreprise, c'est comme
chalet.
C'était des gens du voyage, historiquement. Ils étaient l'hiver sur le golfe de Saint-Tropez et l'été sur Megève. C'est comme ça que l'histoire a démarré.
Quand vous arrivez, vous, il y a 8 employés, c'est ça, à l'intérieur de cette maison. Votre idée, c'est de relancer la machine, de garder à la fois l'histoire, la tradition, mais de la tourner davantage vers l'avenir, vers la modernité.
C'est exactement ça, en fait. Ce produit était devenu un petit peu... il déclinait parce que les deux frères n'étaient pas forcément sur la même vision. Et l'idée, c'était de le relancer et d'étoffer la gamme. C'est pour ça que j'ai créé un bureau de création et d'études avec un designer produit et un responsable de bureau d'études. Et là, sur le dernier produit, on a mis quand même 2 ans pour le mettre au point, contrairement à ce qu'on pense.
Et aujourd'hui, vous êtes 17
Exactement.
Et vous avez 150 produits.
Catalogue intérieur-extérieur, oui, on a 150 produits. Et après, notre atout, c'est qu'on les personnalise pour nos clients. Chantier emblématique, c'est la Folie Douce à Avoria. On a créé des meubles pour l'extérieur avec des contraintes techniques importantes puisqu'on est en montagne. C'est du mobilier très sollicité. Donc voilà, ça fait partie des choses qu'on s'est développées.
Guillaume, notre coach.
Dans un marché où il y a beaucoup de compétition sur un produit qui reste relativement simple, et vous allez évidemment me dire que non, mais dans un marché où il pourrait y avoir beaucoup de concurrence et surtout peut-être des copies, est-ce que être le fauteuil de Sénéquier, ça suffit? Est-ce que vous jouez beaucoup là-dessus? Vous parlez de personnalisation. Est-ce que les clients viennent vous voir en disant « je l'ai vu, c'est celui-là que je veux dans une autre couleur ». Est-ce que ça suffit à résister dans le temps face à une offre qui est pléthorique aujourd'hui?
Alors ça ne suffit pas, mais c'est sûr que l'image du Sénéquier nous aide beaucoup, il faut être honnête. Et après, la particularité, c'est qu'il est quand même robuste. Moi, j'ai des produits qui ont 20 ans sur Avoria, par exemple. Et donc, nos clients, c'est souvent quand même des terrasses ou des plages emblématiques de la côte sud ou en montagne. Et ce qu'ils recherchent, c'est la robustesse, le service. On est une entreprise qui savons intervenir en tout le temps pour...
Et est-ce que le Made in France est un argument? Est-ce qu'ils y sont sensibles? Est-ce qu'ils le recherchent? Ou est-ce que c'est un plus qui est bien, mais qui n'est pas la décision ce qui fait la décision
d'achat? Ils recherchent. Ici, aujourd'hui, on a déjà le bois. On a un avantage, c'est qu'on a un produit 100% recyclable. Donc les gens commencent à y être attachés. C'est-à-dire que par rapport au plastique, on commence à... Les gens en ont conscience, même les professionnels, et je dirais même surtout les professionnels du tourisme, et plus particulièrement haut de gamme, parce que leurs clients sont aussi attachés à avoir des produits, on va dire, éco-responsables.
Raphaël Voisine, vous êtes aujourd'hui le seul fabricant des fameux fauteuils de
metteur en scène. À ma connaissance, oui.
Hein,
à ma connaissance, on est le seul fabricant de fauteuils metteur en scène en France, oui.
Ça vous différencie, ça aussi?
Oui, c'est indéniable.
Vous avez doublé votre chiffre d'affaires en 3 ans?
Exactement.
Vous espériez, justement...
Non, c'est au-delà de mes espérances. On est sur d'avoir relancé. Il y a tout ce phénomène du bois, ce phénomène d'éco-responsabilité qui nous amène. C'est pour ça aussi qu'on sort du bois. Nous aussi, on se sent concerné à l'entreprise de sortir de ce bois tropical pour revenir sur des bois européens. Après, la difficulté, c'était de les trouver en quantité aussi.
La suite, c'est quoi?
La suite, c'est de développer l'international un peu plus qu'aujourd'hui, parce qu'on est présent en Suisse principalement, un petit peu sur les îles, on va dire, américaines. Et donc l'international et le particulier, parce qu'aujourd'hui, je vends très peu au particulier. On est en train de développer des partenariats avec des sites de vente en ligne. Mais ça, c'est un peu prématuré pour en parler, mais voilà, on est dessus.
Vous reviendrez nous en parler?
Sans problème.
Dans La France qui bouge. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'entreprise Azur, l'entreprise qui va bien. Merci Guillaume Gibault d'avoir été notre coach aujourd'hui. Oui. Elisabeth Céline, rendez-vous demain, midi.
À demain.